Jean Bagnac, le masque de fer. La raison d'État peut servir d'excuse, mais non de justification au crime qu'elle a fait commettre. Souvent des innocents ont été privés de leur liberté ou même de la vie, uniquement parce que leur existence pouvait donner quelque inquiétude au souverain ou parce que leur nom pouvait servir de mot de ralliement à la révolte. Ces victimes, immolées à la politique, semblent mériter le plus puissant intérêt, et ceux qui les ont sacrifiés à ce qu'ils appellent la raison d'État n'en sont pas moins regardés comme des bourreaux. Le personnage mystérieux que l'histoire désigne sous le nom de masque de fer, à défaut de certitude sur son véritable nom, est un intéressant exemple de la barbarie de cette politique égoïste. La curiosité du public a été d'autant plus excitée à son sujet qu'on a été borné à des conjectures et qu'il est douteux qu'elles soient jamais satisfaites. Vers 1662, un prisonnier inconnu fut envoyé dans le plus grand secret au château de Pigarole et de là transféré à l'île Sainte-Marguerite dans la mer de Provence. C'était un homme d'une taille au-dessus de l'ordinaire et très bien fait. Sa peau était un peu brune, mais fort douce, et il prenait autant de soin de la conserver en cet état que la femme la plus coquette. Son plus grand goût était pour le linge fin, pour les dentelles, pour les colifichets. Il jouait de la guitare et paraissait avoir reçu une excellente éducation. Il intéressait vivement par le seul son de sa voix, ne se plaignait jamais de son état et ne préférait aucune parole qui pût faire entrevoir ce qu'il était. Dans les maladies où il avait besoin du médecin ou du chirurgien et dans les voyages que ses différentes translations occasionnèrent, il portait un masque de velours dont la mentonnière avait des ressorts d'acier qui lui laissaient la liberté de manger et de boire. On avait ordre de le tuer s'il se découvrait, mais lorsqu'il était seul, il pouvait se démasquer. Il resta enfermé à Pignerolles jusqu'à ce que Saint-Marc, officier de confiance, commandant de ce château, obtint la lieutenance du roi des îles de l'Airain. Il le mena avec lui dans cette solitude maritime, et lorsqu'il fut fait gouverneur de la Bastille, son captif le suivit, toujours masqué. Ce prisonnier fut logé à la Bastille aussi bien qu'on pouvait l'être. On ne lui refusait rien de ce qu'il demandait, on lui donnait les plus riches habits, on lui faisait la plus grande chaire, et le gouverneur, qui lui parlait toujours chapeau bas, ne s'asseyait jamais devant lui. Le marquis de Louvois, s'étant rendu à Sainte-Marguerite pour le voir, avant sa translation à Paris, lui parla avec une considération toute respectueuse. Ce qui redoubla l'étonnement, c'est que lorsqu'il fut envoyé à l'île Sainte-Marguerite, il ne disparut dans l'Europe aucun homme considérable. Nul doute pourtant que ce prisonnier, traité avec de si grands égards, enveloppé d'un voile si mystérieux, ne fût un personnage de la plus haute importance. Pendant son séjour à l'île Sainte-Marguerite, le gouverneur mettait lui-même le plat sur la table du captif et ensuite se retirait après l'avoir enfermé. Un jour, l'homme mystérieux écrivit avec la pointe du couteau sur une assiette d'argent, jeta cette assiette par la fenêtre vers un bateau qui était au rivage, presque au pied de la tour. Un pêcheur ramassa l'assiette et la rapporta au gouverneur. Celui-ci, étonné, dit au pêcheur, « Mais avez-vous lu ce qui est sur cette assiette, et quelqu'un l'a-t-il vu entre vos mains ?»« Ne sais pas lire, » répondit le pêcheur, « je viens de la trouver, et personne ne l'a vu. » Cet homme fut retenu jusqu'à ce que le gouverneur fût bien informé qu'il n'avait jamais lu, et que l'assiette n'était été vue de personne. « Allez, lui dit-il, Vous êtes bien heureux de ne pas savoir lire. Un historien de la Provence raconte un fait qui peut servir de confirmation à celui qui vient d'être rapporté. Il n'y avait que peu de personnes attachées au service du prisonnier qui eussent la liberté de lui parler. Un jour que Saint-Mars s'entretenait avec lui en se tenant hors de la chambre dans une espèce de corridor pour voir de loin ce qui viendrait, le fils d'un de ses amis arrive et s'avance vers l'endroit où il entend du bruit. Le gouverneur, qui l'aperçoit, ferme aussitôt la porte de sa chambre, court précipitamment au-devant du jeune homme et d'un air troublé lui demande s'il a vu, s'il a entendu quelque chose. Dès qu'il se fut bien assuré du contraire, il le fit repartir le jour même, demandant à son ami que pour peu s'en était fallu que cette aventure n'eût coûté cher à son fils et qu'il le lui renvoyait de peur de quelque imprudence. On lit dans une lettre de la grande chancelle à l'auteur de l'année littéraire que lorsque Saint-Mars alla prendre son prisonnier pour le conduire à la Bastille, celui-ci dit à son conducteur « Est-ce que le roi en veut à ma vie ?»« Non, mon prince, répondit Saint-Mars, votre vie est en sûreté, vous n'avez qu'à vous laisser conduire. » J'ai su, ajoute la grande chancelle, du nommé Dubuisson, caissier du fameux Samuel Bernard, qui, après avoir été quelques années à la Bastille, fut conduit aux îles Sainte-Marguerite, qu'il était dans une chambre avec quelques autres prisonniers, précisément au-dessus de celle qui était occupée par cet inconnu, que par le tuyau de la cheminée, ils pouvaient s'entretenir et se communiquer leurs pensées. Mais que ceux-ci, lui ayant demandé pourquoi il s'obstinait à leur taire son nom et ses aventures, il leur avait répondu que cet aveu lui coûterait la vie, ainsi qu'à ceux auxquels il aurait révélé son secret. Le 19 novembre 1703, le prisonnier masqué, après une maladie qui ne dura que quelques heures, mourut et fut enterré dans le cimetière de la paroisse Saint-Paul à Paris. On prit à sa mort autant et peut-être plus de précautions qu'on en avait pris de son vivant pour qu'il ne restât aucun indice sur son état. Et dans la crainte que des curieux ne vinssent déterrer pour examiner les traits de son visage, on le déforma, on le mutila, ou, suivant Sainte-Foy, on lui coupa la tête et l'on mit une pierre à sa place. On dépava sa chambre, on en regratta et blanchit les murailles et le plafond, on en visita soigneusement tous les coins et recoins, on brûla tous ses linges et vêtements et on fondit toute l'argenterie et les bijoux dont il était servi. Quel pouvait être ce prisonnier entouré de soins, d'égards et de respect et pourtant si étroitement gardé à vue? La raison d'État, qui a fait tous ses efforts pour dérober son existence au monde, n'a pas voulu qu'il fût connu davantage après sa mort. On enleva le feuillet du registre de la Bastille qui constatait son entrée dans cette forteresse, quoique ce feuillet fût bien loin de donner le mot de l'énigme. Les historiens se sont épuisés en conjectures à ce sujet. Le masque de fer a même donné lieu à des polémiques. Les uns ont voulu que ce fût le duc de Beaufort, d'autres le comte de Vermandois. On a voulu aussi que ce prisonnier fût le surintendant Fouquet. Sainte-Foy a prétendu qu'il était le duc de Monmouth, fils naturel de Charles II, roi d'Angleterre, décapité en plein jour à Londres en 1685. Les deux opinions les plus vraisemblables, et fondées aussi sur des conjectures, c'est que cet illustre inconnu était un frère jumeau de Louis XIV, où son frère est né, mais non avoué, parce qu'il aurait été le fruit de la faiblesse de la reine Anne d'Autriche. Quoi qu'il en soit, disons que cet infortuné paya bien cher son illustre naissance et que la politique ne saurait justifier aux yeux de l'humanité le séquestre atroce auquel elle condamna ses jours. Mieux eût valu 100 fois qu'on le privât de la vie au moment de sa naissance que de lui faire passer son existence sous les plus inflexibles verrous. Ne pourrait-on d'ailleurs le faire élever en pays étranger, sous un nom emprunté, et faire disparaître tous les vestiges de sa véritable origine? La raison d'État eût alors été satisfaite. La justice et l'humanité n'auraient pas eu à se plaindre. Que l'on se représente cette intéressante victime, n'ayant d'autre société que son geôlier, privé des douces consolations de l'amitié et des tendres affections de famille, ne pouvant respirer qu'à travers des barreaux, qu'à travers un masque impénétrable à l'œil d'autrui, dépouillé du bien le plus cher à l'homme, la liberté, et forcé de subir encore la dérision poignante du cérémonial usité pour les princes. Et alors on pourra se former quelque idée de la cruelle situation de cet illustre malheureux et de l'insensibilité de ceux qui avaient pu condamner son innocence à un semblable supplice.